Radio Capi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, ouverture aujourd'hui à l'université de Kisangani de la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo. Objectif affiché, élaborer des projets qui améliorent les conditions de vie des communautés et de lutter contre la dégradation de la biodiversité. Poursuite à Kinshasa du procès contre le député national Edouard Mwanga Tchoutchou. La haute cour militaire le poursuit pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre découvertes dans ses résidences à Goma et ici à Kinshasa après perquisition. Notre invité, c'est le directeur provincial de l'ICSN au Maniema et chef du parc national de la Lomami. Radar Nishuli revient sur les conclusions de l'Assemblée générale des acteurs du secteur tenue à Kindu en vue de limiter les menaces qui pèsent sur les grands singes à l'est du pays. Madame, messieurs, bonsoir. Économie pour commencer votre journal. Ouverture ce lundi à l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo de la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo. C'est le secrétaire général au ministère de l'Environnement qui a présidé la cérémonie devant un parterre d'éminents scientifiques et experts de l'environnement. Benjamin Toyirambe a recommandé à l'occasion aux conférenciers de Kisangani d'élaborer des projets afin d'améliorer les conditions de vie des communautés et de lutter contre la dégradation de la biodiversité. Pour sa part, la direction du Centre de surveillance de la biodiversité de cette université, un des organisateurs des assises, insiste sur la maîtrise par les communautés locales des spécificités de la biodiversité du bassin du Congo. Reportage à Kisangani de Billy Valutumba.
L'insécurité, les conflits et toutes les autres formes de violence dans la partie est de notre pays entravent sérieusement la gestion de la biodiversité en RDC, souligne le secrétaire général au ministère de l'Environnement, Benjamin Toyirambe.
Nous devons connaître la biodiversité de la planète. Bien sûr, nous luttons contre la dégradation de la biodiversité, mais si nous avons un pays comme le nôtre, la RDC, dont la grande population est très pauvre, comment nous allons résoudre la problématique de la présence? Qui peut me dire aujourd'hui quelle est la végétation qui pousse après l'éruption volcanique?
Raison pour laquelle le professeur Daniel Upoki, directeur adjoint du CSB, et Onésime Omubenga, coordonnateur de projet au Centre de surveillance de la biodiversité de l'UNIKIS et CBIOS, insiste pour que les recherches des scientifiques apportent assez d'informations sur le bassin du Congo.
Ce que nous attendons de cette conférence, c'est faire prendre conscience aux chercheurs, aux médias que vous êtes et à tout le monde sur la nécessité de protéger ce qui existe et on ne peut rien protéger si on ne le connaît pas.
L'ouverture de cette conférence laisse donc place à une série d'ateliers, de formations et séminaires sur une multitude de thématiques sur la préservation de la biodiversité. De Kisangani, Billy Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Et puis la ville de Butembo, Nord Kivu, a abrité ce lundi la première édition de la foire agro-industrielle et artisanale. Cette activité organisée par l'entreprise dénommée Marifa Global avait pour objectif de valoriser la production locale et la promotion de l'entrepreneuriat. Le compte-rendu de Grévis Salomon.
C'est dans les quartiers Vungi de la commune Moussoussa où s'est déroulée la première édition de la foire agro-industrielle et artisanale de la ville de Butembo. Des produits cosmétiques, technologiques et artistiques fabriqués localement ont été exposés dans plusieurs stands. John Siaoussoa, directeur de l'entreprise Marifa Global, organisatrice de la foire, explique son importance.
Nous voulons promouvoir cette catégorie d'entrepreneurs qui sont dans la transformation au niveau local parce que nous croyons que cela a un impact considérable sur le développement de la région. Ce qui nous a motivés d'abord, c'est les soucis de contribuer aussi, tant soit peu, au développement de notre pays.
Eli Kasereka Saamoja est étudiant en première année de licence à faculté de polytechnique à l'université officielle de Rwenzori. Il a exposé au public ce projet des robots roulages. Il estime que cette foire lui a permis d'assurer la visibilité de sa conception.
Tolak aussi, au niveau de l'université, c'est gardé là-bas, mais au moins, lorsqu'on l'amène ici dans cette exposition, ça augmente encore sa visibilité. Au tempo, on est capable de faire des tri Afrique que nous pensons avoir de venir toujours ailleurs.
Les autorités administratives présentes à cette activité ont exprimé les souhaits de voir ce genre d'activité être organisée régulièrement dans la ville de Boutembo pour promouvoir et encourager l'entrepreneuriat local.
Justice à présent. Le député national du Nord Kivu passe en flagrance devant la haute cour militaire ici à Kinshasa depuis vendredi dernier. Édouard Mwanga Tchoutchou est poursuivi pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre présumées découvertes dans ses résidences de Goma et de Kinshasa après des perquisitions. À l'audience publique d'aujourd'hui, ses avocats ont présenté au juge leur mémoire unique par lequel il conteste la procédure des flagrances et les faits allégués. Son coprévenu, un policier capitaine de son état arrêté à Goma, a été également identifié aujourd'hui. Président du Congrès national pour la défense du peuple CNDP, ancienne milice du Nord Kivu transformée en parti politique en 2009, Édouard Mwanga Tchoutchou est suspecté depuis des années d'alimenter les rébellions avec les fonds provenant de la société minière de Bissongou dont il est le patron selon le ministère public. L'audience va donc reprendre demain mardi avec l'examen du mémoire de ses avocats. En Nord Kivu, les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont occupé aujourd'hui lundi l'agglomération de Kibirizi et d'autres villages voisins à l'issue des affrontements de ce matin avec les FARDC dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, c'était autour de 13 heures que ces villages sont tombés. La population de la région a fui pour la plupart vers Kanyabayonga. Les autorités administratives locales plaident pour une protection urgente de quelques habitants, des malades et le personnel soignant qui campe actuellement autour et dans l'hôpital de Kibirizi. Ces sources affirment que la prise de la localité de Kibirizi accroît une psychose dans les camps de la Rwindi qui est encore sous contrôle des FARDC. Et puis c'était hier dimanche après-midi que se sont déployés à Goma les premiers convois des soldats burundais de la force régionale de l'EAC. Les uns sont arrivés dans la ville de Goma par l'aéroport international de la ville et d'autres par la route en passant par le Rwanda avec leur matériel militaire. Explication de Bernard Nyangi.
C'est dans les après-midi hier dimanche que l'avion transportant 30 soldats burundais, pour la plupart des officiers, a atterri à l'aéroport international de Goma. Peu après, à la tombée de la nuit, un autre convoi d'environ 70 soldats de troupes qui sont passés par le Rwanda est entré par la grande barrière de Goma avec la logistique militaire du contingent, indiquent nos sources au sein de l'EACRF. En croit le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force régionale de l'EAC, ces troupes burundaises qui auront leur quartier général à Mubambiro près de Sake, dès ce lundi, seront déployés sur l'axe Sake-Kiro-Liro-Kichanga dans le territoire de Masisi. Ce, en exécution des recommandations des chefs des forces de défense des pays membres de l'EAC du 9 février dernier. Sur place, elles devraient suivre le retrait sans condition du mouvement du 23 mars à partir de ce 7 mars, comme est prévu dans l'accord que ces rebelles ont signé à Luanda avec le président en exercice de la CIRGL. Les troupes burundaises viennent s'ajouter aux Kenyans qui se sont déjà déployés sur l'axe Kibumba-Rumangabo. Le Sud-Soudanais et les Ougandais sont également attendus pour se déployer dans le territoire de Rutshuru selon les mêmes recommandations.
Merci Bernard Nyangi pour ces précisions de Goma. 4 morts dont un bébé et 9 autres personnes grièvement blessées, c'est le bilan de l'attaque du village de Kanje Afrique dans la nuit de samedi à dimanche par le chef des miliciens toit dénommé Liwa dans le haut plateau de Batumba, territoire de Kalemie. Le ministre provincial du Tanganyika annonce que les FARDC ont été déployés au plus vite dans la zone. À Kalemie, le récit de Paul Emunanga.
Le ministre provincial de l'intérieur du Tanganyika indique que Liwa et ses hommes étaient munis d'armes à feu et d'armes blanches. Dieudonné Mulonda précise que ces miliciens ont attaqué la population de ces villages. On déplore 4 morts et 9 blessés, dont 3 les sont grièvement. Les mêmes sources renseignent que le chef milicien Liwa et sa bande sèment la terreur. Il veut instaurer sa loi dans cette zone où il exploite aussi de l'or dans une carrière artisanale. Mais d'autres sources rapportent que Liwa s'est rendu dans ce village pour venger son adjoint qui était porté disparu. Face à cette situation, le ministre provincial de l'Intérieur, ainsi insiste sur la nécessité d'instaurer rapidement les programmes PDDRCS dans la province du Tanganyika. D'après lui, certains miliciens toits sont déjà prêts pour la démobilisation. Dieudonné Mulonda indique que ce programme est une urgence pour les Tanganyika. Cependant, sa mise en œuvre dans la province traîne encore. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Dans la province de la Tchopo, plus de 100 000 électeurs se sont déjà fait enrôler dans la ville de Kisangani, annonce faite samedi dernier par le vice-président de la CENI lors d'une séance de sensibilisation des personnes vivant avec handicap. Didi Manaralinga appelle les retardataires à faire diligence. Il est au micro de Jacques Mukonkole.
Il n'y a plus que deux semaines et je vous dis que ça avance bien. Déjà ici dans la ville de Kisangani, je peux déjà vous dire que nous avons déjà enrôlé à plus de 100 000 électeurs ici, dans la ville de Kisangani. C'est déjà au-delà de nos attentes. Nous demandons aux retardataires de venir massivement et promptement, parce que d'ici là, dans les deux semaines, ça sera la fin, ça sera la clôture. Il ne faudra pas attendre la dernière minute pour que vous puissiez obtenir votre carte d'électeur. Avec les mises à jour qui ont été apportées à nos machines, une machine peut enrôler plus de 100 personnes par jour, hein, une seule machine. Alors qu'avant, au début, ça n'enrôlait que 40-50 personnes. S'il y a engouement, les gens viennent à temps, nous enrôlons de 7h à 17h, et vous verrez qu'à la fin, à la fin des deux semaines, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se battre devant les centres d'inscription. Nous ne le souhaitons pas, mais les deux semaines sont amplement suffisantes pour absorber tout le nombre de requérants qui nous restent enrôlés. Donc, venez nombreux.
On enchaîne avec le Sud Kivu où le gouverneur intérimaire invite ses administrés à promouvoir la culture du pardon et la cohésion sociale. Appel lancé aujourd'hui lors d'un point de presse animé à Bukavu. Marc Malago Kachikere promet de faire de la sécurité, du social et des infrastructures ses priorités. Pour y arriver, il tend la main aux députés provinciaux. Ses propos ont été recueillis par Justine Ntamwenge.
Face aux défis auxquels fait notre province, le pardon et la cohésion sont les remèdes indiqués pour rassembler les filles et les filles du Sud Kivu autour de l'idéal commun de paix et de développement. Ainsi, j'invite humblement l'Assemblée provinciale à rejoindre le gouvernement provincial sur le chemin de la réconciliation entre les institutions provinciales et nos populations d'une autre part. Je voudrais ici rassurer tout le monde de ma plus grande détermination pendant mon intérim à ne ménager aucun effort pour répondre tant soit peu à ces attentes. Ma priorité sera focalisée sur la sécurité, le social, les infrastructures et l'accompagnement du processus électoral. Je vous promets une gouvernance axée sur la redevabilité et le dialogue social permanent.
Et dans les Sankourou, un chien enragé a mordu samedi dernier 11 personnes en l'espace d'une heure dans trois groupements. Le chef de groupement de Malela affirme à Radio Okapi que les victimes vivent dans les groupements de Malela, Kabondo et OND. Sylvain Lokoté a été joint par Esther Ndalafina.
Ça fait trois jours qu'un chien enragé a mordu des gens ici dans trois groupements à partir des 6h du matin. Ce chien en divagation s'est retrouvé sur la route où il a commencé à mordre les gens dans les groupements Kabondo, Malela et Owende. Nous avons compté 11 personnes mordues dans ces trois groupements. J'ai conduit toutes ces personnes au centre de santé pour les soins. Les jeunes et d'autres personnes ont pourchassé ce chien jusqu'à ce qu'ils l'ont abattu.
Actualité internationale.
Aux États-Unis d'Amérique, des révélations du New York Times sur l'exploitation illégale des jeunes enfants latino-américains dans des grosses usines et travaillant pour des marques célèbres ont fait grand bruit ce week-end. Les associations de défense des droits des migrants et une partie de la classe politique américaine dénoncent ce qu'ils qualifient d'une situation inacceptable. L'armée ukrainienne compte bientôt renforcer ses positions à Bakhmout, épicentre des combats avec les troupes russes dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui dans l'après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur fond de spéculation sur un éventuel retrait des forces de Kiev de cette localité. La nouvelle est rapportée par l'AFP. Et puis, Pékin a décidé d'augmenter son budget militaire pour 2023. Il passe ainsi de 1553 milliards de yens, soit 225 milliards de dollars américains. C'est la fin du budget militaire chinois, le deuxième plus important du monde, après celui des États-Unis, plus de trois fois supérieur.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de l'ICCN au Maniema et chef du parc national de la Lomami. Radar Nishuli revient sur les conclusions de l'Assemblée générale tenue récemment à Kindu en vue de limiter les menaces qui pèsent dangereusement sur les grands singes à l'est de la RDC. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Bonjour Monsieur Radar Nishuli.
Bonjour Madame la journaliste.
Qu'est-ce qui justifie cette rencontre des acteurs locaux de la mise en œuvre du plan d'action de conservation du grand singe dans l'est de la RDC?
Souvent on vit mais on ne sait pas pourquoi on vit. Ou bien on vit mais on ne sait pas où est-ce qu'on vit. Et c'est comme ça que les hommes ont un comportement un peu bizarre vis-à-vis de la nature. Je commence par cette généralité puisque si tu es chrétienne comme moi, on nous a dit que l'homme a été le dernier à être créé et lui a dit tu vas gérer. Mais malheureusement aujourd'hui, le cadet de la création, il veut se faire comme le plus grand de cette création-là. Et il utilise les ressources naturelles comme il veut. Pour le Maniema, nous avons pensé qu'il était grand temps que les acteurs qui interagissent dans la conservation de la nature, se rencontrent pour, n'est-ce pas, discuter entre eux. Quelle est la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis de cette nature qui nous protège tous? Et nous sommes heureux de voir que John Goodall Institute a trouvé opportun d'amener une réflexion ici à Kindu. Donc nous nous retrouvons ici pour réfléchir sur la vie et la survie de grands singes à l'est de la République démocratique du Congo.
Parti de quel constant pour arriver aujourd'hui à réfléchir sur cette question?
Les grands singes qui sont en voie de disparition drastique se retrouvent pour la grande partie à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cependant, cette richesse qu'on ne pourra plus remplacer si on ne fait pas attention, fait face à beaucoup de menaces. Le braconnage, le commerce des espèces vivantes, la dégradation des habitats là où vivent ces espèces, ainsi de suite. Toutes ces menaces mises ensemble nous inquiètent, nous en tant qu'experts du domaine. C'est comme ça que nous avons pensé, il faut se réunir pour voir si nous pouvons arrêter ou alors diminuer de façon considérable ces menaces qui pèsent sur ces espèces.
Parlant du grand singe, peut-on savoir à son état des lieux aujourd'hui à l'est de la RDC et plus précisément dans la province du Maniema?
Il y a de cela 11 ans, nous avons fait des études et on a trouvé que les singes ont diminué entre 60 et 80%. C'est-à-dire si d'ici 20 ans nous avons perdu 60 ou 80, c'est-à-dire avec l'allure où vont les choses, les gueules qui se multiplient dans les zones de l'est et les bandits qui se cachent dans la forêt qui abritent ces espèces-là, nous risquons de le perdre d'ici peu de temps.
Nous risquons de les perdre, mais qu'est-ce que ICCN fait?
ICCN a été créé comme un établissement public de l'État, justement, pour protéger certaines espèces de faune et de flore qu'on retrouve dans les aires protégées. Et l'ICCN n'a jamais croisé les bras, et c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs, et il essaye d'encadrer ses agents, mais il y a aussi, pas seulement l'ICCN, il essaie de contacter les partenaires pour que ces partenaires, n'est-ce pas, contribuent aussi d'une façon ou d'une autre à la protection de la nature de la RDC, qui d'ailleurs, on nous appelle pays solution, c'est-à-dire que nous sommes le deuxième poumon du monde. Donc les partenaires viennent justement pour qu'on ne perde pas ce poumon du monde. L'ICCN essaie de faire ce qu'il doit faire, mais je pense que toute la communauté autour de ces aires protégées devait s'impliquer pour qu'ensemble nous puissions protéger ce que nous ont légué les grands-pères et ce que nous sommes obligés de faire hériter à nos fils et nos petits-fils.
À part les braconnages et les commerces, qu'est-ce qui est à la base de la disparition de cette espèce dans notre pays?
C'est lié, hein. Il y a la pauvreté des communautés autour du parc qui fait que les gens gens pensent que en allant détruire ou en tuant, ils peuvent trouver de l'argent ou faire des choses comme ça. Donc c'est toute une chaîne. Il y a l'État qui a toute l'autorité sur ces forêts, mais qui n'a pas assez de moyens pour protéger ces forêts. Il doit faire recours à d'autres personnes. Nous avons la société civile qui est supposée appuyer les efforts de l'État pour conserver ces usines. Malheureusement, certaines ONG de la société civile intoxiquent la population contre les gestionnaires de cette histoire, puisqu'ils cherchent l'argent des ONG et des choses comme ça. Nous avons les communautés elles-mêmes. Nous protégeons pour les communautés, mais ce sont les mêmes communautés pour lesquelles nous protégeons qui viennent détruire. Vous comprenez, c'est un peu le contraste de la conservation. Nous avons aussi les partenaires. Les partenaires, souvent, qui nous amènent l'argent, ils nous dictent leurs approches. Parfois, ce sont des approches qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Mais comme on n'a pas assez de moyens, parfois on essaye. Et c'est là où on continue à penser qu'on avance, mais on n'avance pas. Et aujourd'hui, nous avons pensé qu'à travers un atelier de réflexion comme ça, nous allons essayer ensemble de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que tout se passe bien.
Merci.
Merci aussi, Madame la journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur provincial de l'ICSN au Maniema et chef du parc national de l'Omami. Radar Nishuli était interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Ainsi se termine cette édition d'information sur Radio Okapi à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Pélé Kipela Mondo qui m'a accompagné.